Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là. Faut...
Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous. Vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir. Vous êtes bien sur le Canu Info du lundi et sur Radio Canu d'ailleurs.
On est donc le 26 septembre et...
Pas du tout, on n'est pas le 26
on
septembre.
On n'est pas du tout le 26
non,
septembre.
Non, on est le 3 octobre.
Le 3 octobre. Super. Et on va parler à l'international de l'Indonésie et d'une intervention policière dans un stade. Puis on parlera de Giorgia Meloni en Italie, des révoltes à Haïti et de la grève au Royaume-Uni.
Ensuite, au national, on parlera, comme ça arrive souvent, d'un petit scandale islamophobe en France, et toujours en France, donc on parlera de notre gouvernement et des nombreuses prises illégales d'intérêts, en tout cas, on en parle encore.
Au local, nous parlerons de Guillaume Protière, révoqué de Lyon 2 pour des violences sexuelles. Ensuite, on vous fera une lecture d'un communiqué lié à l'occupation du collège Pierre Valdo à Vaux-en-Velin. Et on terminera le local sur la fermeture de lits à Saint-Jean-de-Dieu.
Et pour finir, il y aura un petit dossier sur la rentrée des luttes. Avant de commencer sur les citations du jour.
Alors oui, je vous avoue que cette semaine, le choix était cornélien pour choisir la citation de la semaine, car on a eu de bien belles sorties. On a quand même une mention spéciale pour Gilles Legendre sur le plateau de France Info. On l'écoute.
Il faut montrer l'exemple, il faut expliquer. Moi ça y est, par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge, on éteint le linge. Honnêtement, c'est pas très compliqué à faire.
Bravo Gilles, hein, 64 ans, qui vient d'apprendre à étendre son linge. Quel exploit! Alors, quelques petits rappels néanmoins. Hein. Bon, déjà, le sèche-linge, c'est quand même un peu un problème de bourgeois, puisque seulement 28% des ménages disposent de cet équipement. Et puis, autre petit rappel sur Gilles ou l'écolo, qui prend part aux tâches ménagères, grand féministe devant l'éternel. Je rappelle qu'il est député, il a été président du groupe LREM, et attends, tiens, comme c'est original, il est accusé de harcèlement sexuel envers une ancienne collaboratrice. Bravo Gilo, en tout cas, pour ton soin du linge. Et comme on n'a pas réussi à départager les citations de la semaine, on en a deux pour le prix d'une. Une petite pour la route de Florence Foresti qui se passe de tout commentaire. Les hommes, la majorité sont féministes, doux, remplis d'amour. Voilà, on commentera pas cette petite
pas
citation.
Pas besoin.
C'est pas la peine.
Voilà, et on enchaîne tout de suite avec les brèves.
Ouais, première brève, on va vous parler de ce qui s'est passé à la fin de la manifestation à Paris jeudi, le jour de la grève interpro. Un enseignant d'un collège de Seine-Saint-Denis qui était gréviste a été violemment interpellé par des flics en civil de la BAC, sans brassard, les flics, au milieu de tout le monde. Alors la vidéo de l'interpellation montre bien la violence du moment, balayette, coup de poing porté au visage, entre autres, hein, sous les yeux ahuris des autres manifestants. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble, un peu avant, des BAC, toujours sans brassard, ont attaqué une jeune adolescente bloquée au sol qui criait « Je ne peux plus respirer ». Et donc, ce fameux enseignant a pensé que c'était peut-être une de ses élèves. Il est intervenu verbalement. Il n'aurait visiblement pas dû, puisque une fois interpellé, les flics l'ont humilié avec de nombreuses remarques transphobes de type « Ton métier, c'est d'apprendre aux élèves à se couper les couilles ». Voilà, on est toujours sur de la subtilité côté baqueux. Au final, il a fait cet enseignant 27 heures de garde à vue pour rien, puisque il n'a pas de poursuite judiciaire. Les flics sont donc toujours bien en roue libre.
Et ensuite, une sorte de bonne nouvelle. Vous savez, annuler des dettes, c'est possible dans un monde libéral et capitaliste? On nous dit souvent que non, que ça fragiliserait tout le système économique, et puis même que ce serait pas très moral de donner de l'argent gratuitement. Et pourtant, les États-Unis viennent d'acter l'annulation d'une partie de la dette étudiante de 45 millions d'Américains. Chaque bénéficiaire pourra se faire effacer entre 10 000 et 20 000 dollars de dette en fonction de leurs revenus, sur une dette qui représente en moyenne 35 000 dollars par personne. Alors voilà, allez, maintenant qu'on sait que c'est possible, autant ne pas s'arrêter en bon chemin, annulation de toutes les dettes étudiantes ou autres.
Et on passe tout de suite à la rubrique
internationale.
Et on commence avec l'Indonésie.
Ouais, alors ça s'est passé samedi soir à Malang, une ville située sur l'île de Java en Indonésie. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ou qui situent mal, l'Indonésie c'est un pays transcontinental de plus de 13 000 îles dont 922 sont habitées. C'est le plus grand archipel du monde. Et sur une carte, les îles principales sont situées au nord-nord-ouest de l'Australie, au sud-sud-est de la Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam pour situer. Fermons cette parenthèse donc. Sur l'une des principales îles, Java, à Mulang, samedi soir, une intervention policière a fait pas loin de 200 morts et 325 blessés dans un stade de foot. Les vidéos sont hallucinantes. Le stade, à ce moment-là, est bondé. Il y a 40 000 spectateurs et spectatrices. À la fin du match, on y voit quelques dizaines de supporters qui envahissent la pelouse du stade. Et là, les flics indonésiens ont fait absolument n'importe quoi. Ils ont chargé les quelques supporters, tabassant les plus lents, mais aussi et surtout ont tiré des lacrymos en quantité astronomique en direction des tribunes qui étaient archi bondées. Sauf que, les lacrymos, bah, ça pique. Et on imagine bien que les lacrymos indonésiennes doivent pas être cool. Et donc, ça a créé un immense mouvement de panique. Les gens se sont bousculés, se sont fait marcher dessus, sont tombés massivement. Un bilan provisoire fait pour l'instant état de au moins 175 à 180 morts, piétinés ou asphyxiés. Certaines images montrent des rangées de cadavres alignés après le match, c'est assez horrible. Immédiatement après, les autorités ont tenté de justifier l'intervention policière car des policiers auraient été attaqués. Mais les témoignages des supporters et également de certains joueurs disent complètement l'inverse. Les autorités ont en premier lieu, le président de la République Joko Widodo ont dit désolé pour cet incident et ont proposé une compensation de 150 millions de roupies, soit 3 200 $ aux familles des victimes. Tu parles d'une compensation face à une telle horreur. Alors on rappelle quand même que l'Indonésie a toujours des éléments de sa police et de l'armée qui sont issus de la dictature militaire de Suharto, hein, qui est une dictature qui a duré quand même un bon paquet d'années, de 1965 à 1997, qui a finalement été contrainte de démissionner à la fin des années 90 en raison de la crise financière asiatique. Mais depuis, il y a certes des élections dites au suffrage universel, mais l'appareil d'État reste aux mains d'individus issus de cette dictature qui était viscéralement, on le rappelle, anticommuniste et soutenue par les États-Unis. Cette tragédie en est donc une des conséquences. Et puis aussi et surtout, tout ça nous rappelle que les lacrymos font partie des armes létales, c'est-à-dire qui peuvent tuer, déjà car elles font suffoquer les personnes qui en respirent, mais aussi et surtout car ces gaz provoquent des mouvements de panique extrêmement dangereux, notamment lorsqu'ils sont utilisés massivement dans des endroits fermés ou presque, comme les stades de foot.
Allez, pour continuer dans les réjouissances, on parle de l'Italie.
Oui, alors rapidement, parce qu'on a assez longuement parlé la semaine dernière de l'élection de Giorgia Meloni, on voulait juste passer un petit extrait de la future présidente du Conseil italien. C'est une archive dégotée par l'INA, on est en 96 et Giorgia Meloni a 19 ans. Elle est membre de l'Alliance Nationale qui vient d'être créée à la suite du mouvement social italien dont elle faisait déjà partie. À l'époque, pas de dédiabolisation en vue, elle nous parle de son amour pour le Duce.
Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eu dans les derniers 50 ans.
Voilà, voilà le vrai visage de Giorgia Meloni. Il ne faut pas l'oublier, soutien antifasciste aux camarades de l'autre côté des Alpes.
Et on enchaîne avec des révoltes à Haïti.
Oui, alors c'est assez habituel, en tout cas en ce moment depuis septembre, et l'annonce de l'annulation des aides d'État sur le carburant, d'immenses manifestations, parfois des émeutes, ont lieu encore jusqu'à aujourd'hui. Le prix du kérosène, qui était déjà cher sur l'île, a par conséquent doublé. Il est maintenant à 5,69 €. Cette augmentation pèse très lourd sur la population qui compte sur l'essence pour se déplacer évidemment, mais aussi pour accéder à l'électricité un peu partout dans l'île et notamment dans les hôpitaux. Depuis les tremblements de terre de 2010 et même de 2021, le réseau électrique n'est pas ou peu opérationnel et ce sont donc des générateurs électriques à essence qui ont pris le relais. Les manifestations, ont entraîné la fermeture de nombreux commerces, des affrontements avec la police et ce qu'on appelle dans la plupart des médias des pillages, mais qu'on pourrait aussi appeler des gens qui ont besoin de choses et qui se servent. Mais elles ont aussi mené à une grève les 26 et 28 septembre, très suivie notamment dans le secteur des transports. Et si c'est la montée des prix qui, comme souvent, déclenche les manifestations à Haïti, il faut rappeler que ce n'est pas la seule revendication de la population. Et cette fois-ci, ça ne fait pas exception. L'année dernière, en juillet, le président Moïse Jovenel était assassiné par un commando armé. Cet assassinat n'est toujours pas élucidé malgré l'arrestation de 18 anciens militaires colombiens. Depuis, la gouvernance du pays est assurée par le Premier ministre Ariel Henry, donc celui-là même qui vient d'annoncer la fin des aides d'État sur l'essence. Ce dernier n'a a priori pas de mandat et il est donc contesté par la population. S'il reste au pouvoir, c'est parce qu'il a le soutien d'une des principales ONG présentes sur l'île, le Core Group, qui a été créé à la suite du tremblement de terre de 2010 et dont dépend donc une grande partie de l'aide humanitaire sur l'île. C'est un bel exemple de soft power et d'ingérence puisque l'ONG est pilotée par les États-Unis, la France et le Canada. La population accuse aussi le gouvernement de ne pas tenter de mettre fin aux guerres de territoire des gangs qui causent la mort de plusieurs milliers de personnes chaque année. Et accessoirement, ces gangs détournent la plus grande partie des aides extérieures, notamment alimentaires, quand ce n'est pas directement détourné par les ONG corrompues auxquelles les aides sont confiées. Pour conclure, la population de Haïti est maintenant dans cette situation de misère, dans cette situation de misère de façon que l'on pourrait qualifier de volontaire, et notamment à cause de ses dettes envers les États-Unis. Cette dette a la particularité d'avoir été contractée de force après l'invasion en 1915 par les États-Unis. C'est entre autres cette dette qui, aujourd'hui, empêche par exemple l'île de se fournir en pétrole auprès du Venezuela, qui en propose pourtant un prix avantageux à travers l'accord Petro-Caribe auquel Haïti pourrait prétendre. Le problème, c'est que Haïti doit suivre les sanctions imposées par les États-Unis, qui en ont fixé contre le Venezuela, et interdisent donc cet échange commercial. Tout ça pour dire que l'impérialisme existe toujours bel et bien, Haïti étant une des nombreuses preuves que des États s'enrichissent encore sur le dos d'autres États.
Et puis, pour finir ce point à l'international, on va parler des grèves au Royaume-Uni.
Et oui, on n'a pas pu vous en parler pendant notre pause estivale, mais le Royaume-Uni a connu une vague historique de mouvements sociaux cet été. Alors, malgré les négociations scandaleuses des directions syndicales, le mouvement n'a pas faibli de l'été et demandé de réelles augmentations de salaires. En cause, évidemment, l'inflation galopante au Royaume-Uni qui dépasse les 10%. Les facteurs d'énergie ont par exemple triplé en un an. Dès le mois de juin, donc, le secteur ferroviaire s'était mis en grève pour protester contre une proposition d'augmentation de seulement 3% alors que le taux d'inflation était déjà de 9%. Il y avait 40 000 grévistes, une ligne sur deux fermée, 4 trains sur 5 supprimés. Même colère chez les dockers ou encore Royal Mail, la poste anglaise qui a été privatisée depuis plus de 11 ans. Plus de 100 000 grévistes dans le secteur à la fin du mois d'août. Alors pour contrer cette grande sociale et briser la grève, des lois ont été votées dès la fin juillet afin d'autoriser le recours aux intérimaires. Alors, ça n'a pas fait faiblir la mobilisation, mais le décès d'Elisabeth II a quand même permis une dégueulasse tentative de faire taire la contestation. Les directions syndicales elles-mêmes ont appelé à arrêter le mouvement par respect pour la famille royale. Respect que les travailleurs en lutte doivent bien à Elisabeth II, hein, qui, je le rappelle, n'a jamais participé à la répression du mouvement social, c'est bien connu. Mais cette tentative a été bien vaine et on s'en félicite, puisque de nombreux secteurs sont repartis dans la lutte. La semaine dernière, ce sont 560 dockers de Liverpool qui se sont mis en grève pour au moins 2 semaines. Ils ont été rapidement rejoints par les dockers de Felixstowe, faisant monter à plus de 1900 le nombre de grévistes dans ces deux ports par lesquels transitent près de la moitié des conteneurs du pays. C'est donc énorme. Les cheminots ont rejoint la danse avec plus de 40 000 travailleurs en lutte. Et ils vont bientôt être suivis par d'autres secteurs. Le gouvernement de Liz Truss annonce déjà vouloir limiter le droit de grève pour satisfaire les capitalistes qui, pour leur part, font payer l'inflation à celles et ceux qui les enrichissent de leur travail. La reprise du mouvement de grève et ses avancées ouvrent la voie à d'autres mobilisations et pourraient inspirer la classe ouvrière partout dans le monde. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
Et puis tout de suite, une petite musique que tu vas nous présenter.
Oui, alors c'est No Going Back. Alors là, c'est une version interprétée par Christine Moon, mais c'est une chanson qui a été composée par la chanteuse Sandra Kerr, mais pour le collectif des femmes de mineurs de North Staffordshire, pendant le grand mouvement de grève de 84-85 des mineurs. Et elles nous disent, les femmes, qu'il n'y aura pas de retour en arrière parce qu'on est déjà trop engagées.
The world is turning, changing like the seasons of the year. Flowers grow where once the earth was cold and bare. Streams feed the rivers and rivers feed the sea. And the courage of my friends will feed the change in me. And there is no going back to the beginning now. No going back, we're too deep in it now. No going back, the strength of women now. No going back. Since the miners' strike has ended, a new life has begun. We're different women after all we've seen and done. We're learned the world's divided and we have made a choice. We lost a battle but we found a voice. And there is no going back to the beginning now. No going back, too deep in it now. No going back, there is no limit now. No going back. Life's hard if you're a worker, it's harder if you're black. It's harder if you're old or sick or get the sack. It's hard for a woman when she tries to say that she doesn't think the kitchen sink is where she'll stay. And there is no going back to the beginning now. No going back, we're too deep in it now. No going back, there is no limit now. No going back, some families deny it, some families understand that a woman's rights are equal to the rights of men. So if you call me sister when I join your picket line, better be there for me brother when I fight for mine. And there is no going back to the beginning now. No going back, too deep in it now. No going back, there is no limit now. With friends here by my side, we'll face a bitter future and the storm will ride. We'll finish what we started, go on where we began. We've only chance to lose and all the world to win. And there is no going back to the beginning now. No going back, too deep in it now. No going back, there's no limit.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h19, vous écoutez le Canu Info du lundi et vous venez d'écouter No Going Back, une chanson écrite pour les femmes de mineurs en Angleterre lors de la grande grève de 84-85. On passe tout de suite à l'actualité.
Ouais.
On passe tout de suite à l'actualité.
Voilà. Ouais, oui. Ben oui. Je sais pas ce que m'a fait le truc, mais...
National.
Et au national, on commence par un sujet sur le scandale islamophobe autour de l'imam Iqoustène.
Oui, c'est moi, tout à fait. Excusez-moi, j'étais encore sur le petit problème technique d'avant. Je me disais, mais que s'est-il passé? Mais on s'en fout. Alors, le grand n'importe quoi islamophobe de Darmanin et consort. Continuons, on a encore un triste exemple avec l'interpellation de l'imam Hassan Iqoustène. Pour rappel, cet été, Darmanin a littéralement mis en scène la soi-disant traque d'un imam dont les propos auraient été, je cite, « contraires à la République ». Rien que ça. Alors, le problème, c'est que même si ces propos sont des propos de gros réac, propos qui d'ailleurs dérangent généralement pas Darmanin quand c'est lui, ses collègues ou des médias de, comme CNews qui les tiennent, eh bien, ces propos ne sont malgré tout pas un délit. Pourtant, Darmanin himself a sorti de son chapeau un arrêté d'expulsion le 29 juillet dernier. Arrêté d'expulsion suspendu le 5 août par le tribunal administratif de Paris. Darmanin a ensuite fait appel au Conseil d'État qui a rendu le 30 août une ordonnance de référé confirmant l'arrêté d'expulsion de Hassan Iqoustène. Vous suivez ? Entre-temps, l'intéressé s'est auto-expulsé et est allé se réfugier en Belgique. Alors certains médias ont immédiatement parlé de cavale alors qu'il n'a toujours pas commis de délit, notamment puisqu'il a de lui-même quitté le territoire national, certes pas vers le Maroc, pays de renvoi officiel, puisqu'il est de nationalité marocaine, mais cela ne constitue pas un délit au regard du droit administratif français, notamment du CESEDA, le fameux code de l'entrée du séjour des demandeurs d'asile et des étrangers. Pour autant, sur demande du procureur de la République de Valenciennes, un juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt européen. Selon une source de l'AFP, au ministère de l'Intérieur, il a fallu faire preuve d'acrobatie juridique pour judiciariser une poursuite contre quelqu'un sous le coup d'une mesure administrative. Bref, tout ça vient d'en haut. Hassan Iqoustène a donc été arrêté en Belgique le 30 septembre. Il va être ramené en France et il sera expulsé, on sait en tout cas ce qu'a dit Darmanin, vers une destination encore inconnue puisque le Maroc refuse pour l'instant son expulsion. On rappelle que Hassan Iqoustène est né en France, ses enfants aussi, que certains de ses frères et sœurs ont réussi à obtenir la nationalité française, mais lui jamais. Alors si l'imam Iqoustène est clairement pas un allié politique pour nous, c'est même plutôt le contraire. Ce que fait le gouvernement avec Darmanin à sa tête et le ministère de l'Intérieur, à son encontre, hein, est un véritable acharnement islamophobe, rien de plus. C'est scandaleux et il faut le dénoncer, c'est ce qu'on fait ici.
Et toujours au national, on passe aux prises illégales d'intérêts du gouvernement.
Et oui, aujourd'hui, on apprenait à la fois la mise en examen du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, pour prise illégale d'intérêts dans l'affaire de l'armateur MSC. C'est le deuxième plus grand armateur de porte-conteneurs du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une information judiciaire avait été ouverte le 23 juin 2020 pour prise illégale d'intérêts. Trafic d'influence et défaut de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est une plainte de l'association Anticor qui avait ouvert cette affaire. L'association soupçonne en effet Alexis Kohler d'avoir mis à profit sa position à l'Élysée pour tenter de favoriser une entrée au capital des chantiers navals STX, donc qui sont détenus à 33% par l'État. Et il se trouve que Gianluigi Aponte, le propriétaire donc du croisiériste italien, est le cousin d'Alexis Kohler lui-même et que Alexis Kohler lui-même a été employé par la MSC. Mais ça, Alexis visiblement l'avait oublié. Aujourd'hui également, la Cour de justice de la République a ordonné le renvoi en procès d'Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt. Alors depuis son entrée au gouvernement en 2020 en tant que garde des Sceaux, Dupond-Moretti a largement profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il était en conflit alors qu'il était encore avocat. Il avait ainsi ordonné une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier qui avaient, en 2014, demandé à consulter ses fadettes, figurez-vous, dans l'affaire Paul Bismuth. Vous vous souvenez, il cherchait la taupe qui avait informé Nicolas Sarkozy des poursuites ouvertes à son encontre. Il a donc également digilanté des poursuites administratives contre un ancien juge d'instruction qui avait mis en examen un de ses ex-clients. À la suite de ça, il a récolté des plaintes à la fois des syndicats de la magistrature, mais aussi d'Anticor, tout comme Kohler. Voilà, de bien belles méthodes hein, du gouvernement. Mais à ces deux stars du jour s'ajoutent aussi sept ministres du gouvernement qui sont du gouvernement Borne, qui sont impliqués dans des affaires. Alors, pour prise illégale d'intérêt, on retrouve Sébastien Lecornu, ministre des Armées, Olivier Dussopt, ministre du Travail, mais aussi Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer, qui, elle, est accusée de clientélisme. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, elle a été nommée malgré plusieurs signalements pour harcèlement. Et enfin, les grandes stars qu'on connaît bien, qui sont accusés de viol, Darmanin, Abad et Zakharopoula. Voilà, on est bien loin de la République exemplaire promise par Emmanuel Macron en 2017. Aujourd'hui, c'est 30% de son gouvernement Bonne qui est poursuivi en justice. Un bien beau score.
Et puis, on va mettre une petite musique qui s'appelle « Perquise comme jamais » de Samy Amara et featuring avec Maître Jacquard.
Ça va, Manu ? La semaine dernière, on était 30. Toi qui aimes les chiffres, dis-moi combien on est maintenant. Je refais une vidéo simple qui coûte un pognon de dingue. Parce que vous êtes trop sourds. Simple, basique. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. 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 L'ambulatoire, c'est le drive en McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Si ça ruse pour nous museler, c'est pour mieux nous la mettre dans l'arrêt. Simple. Saint-Exupéry sans elle, ton avion ne peut pas s'envoler. Basique. Si tu déshabilles Pierre pour essayer d'habiller Paul, c'est Riquet qui se fait baiser. Simple. C'est dramatique, mais pour le combat, t'inquiète, on est paré. Basique. Je suis pas Saint-Jean ou Saint-Nicolas, je veux juste faire mon métier. Simple. Si j'ai la rage contre ta tête de comptable, Pasteur sera là pour m'aider. Basique. L'union fait la force, je viens du coin en marchant pour t'expliquer. Simple. Que pour défendre les patients, on va te montrer ce qu'est la fraternité. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases, 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 vous n'avez pas les bases.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est toujours le Canu Info du lundi. Comme vous vous êtes peut-être rendu compte, ce n'était pas Perquise comme jamais, mais la chanson qu'on avait prévue après, qui a été faite par la CGT du CHU de Toulouse, qui était une transformation du simple basique d'Orelsan. Voilà, puisque ce sera pour notre, c'était prévu pour notre petit dossier sur la rentrée des luttes, mais on va inverser, on vous la mettra tout à l'heure, la Perquise comme jamais. Et tout de suite, on va passer donc au
local.
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 Et au local, on parle donc de Guillaume Protière qui a été révoqué par l'Université Lyon 2 pour violences sexuelles. C'était vendredi 30 septembre dernier. La section disciplinaire de l'Université Lyon 2 a affiché cette décision dans le hall de l'université. Donc Guillaume Protière, c'est l'ancien doyen de la faculté de droit et un professeur de droit. Et cette révocation fait suite aux violences sexuelles qu'il a exercées sur une étudiante de 20 ans de moins que lui pendant 3 ans. C'était une affaire dont on avait déjà parlé ici. Pour rappel, il avait commencé une relation avec elle de manière anonyme sur les réseaux sociaux. Donc c'était une étudiante qui était dans ses cours hein, en première année. Il utilisa un compte pseudo-institutionnel sur Facebook appelé Faculté de droit en se cachant derrière. Et puis, il avait fini par lui révéler que c'était lui. Et il l'avait reçu dans son bureau. Il lui avait promis de transmettre son CV pour un stage, puis d'être son assistante. Peu à peu, leur relation était devenue de plus en plus intime. Et puis, ils ont commencé à avoir une relation, des relations sexuelles et ensuite des pratiques BDSM dans l'enceinte de l'université. Le doyen lui a entre autres fait signer un contrat BDSM. Surtout, il est arrivé de nombreuses fois que Alice, donc c'est sous ce prénom qu'elle a témoigné dans Rue 89 à la fin de l'année 2021, il est arrivé de nombreuses fois qu'Alice ne soit pas consentante ou qu'elle lui demande d'arrêter lors d'une relation sans qu'il le fasse évidemment. Pour les relations et pratiques auxquelles elle aurait en apparence consenti, il s'est bien sûr servi de sa position et des liens de subordination qu'il avait avec cette étudiante. Et cette révocation de son poste a eu lieu donc récemment après qu'il ait été suspendu depuis décembre 2021 et qu'il ait démissionné de son rôle de doyen après le témoignage de l'étudiante donc, qui avait été envoyée à la direction de l'université et qui avait été publiée par Rue 89. Guillaume Protière dispose de 2 mois pour faire appel. Il y a encore une question à éclaircir, c'est que, en principe, la révocation, ça le prive complètement du statut de fonctionnaire, donc il quitte vraiment la fonction publique, alors qu'un article de la Tribune de Lyon dit qu'il pourrait quand même exercer dans une autre université. Bon, en tout cas, on espère bien médiatiser son CV de violeur abusant de sa position de pouvoir pour éviter qu'il soit embauché par une autre fac et qu'il puisse profiter d'autres étudiantes. Pour ça, il y a aussi encore un volet pénal de l'affaire qui est en cours. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte après le signalement fait par l'université au parquet en décembre 2021. À noter que à l'université Lyon 2, il y a enfin une cellule anti-discrimination, harcèlement, violence sexuelle et sexiste qui a été créée en mars 2021. Et que tout ça fait bien sûr suite au gros mouvement féministe autour de MeToo et aux mobilisations du collectif Clash, donc, qui est un collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'université. En tout cas, on souhaite plutôt mauvais vent à Protière.
Et l'hiver revient et il y a toujours des enfants qui dorment dehors. Quand l'hiver revient, c'est à nouveau la saison des occupations d'écoles et de collèges. Et donc, on va vous lire le communiqué du collectif de soutien du collège Pierre Valdo.
Le collège Pierre Valdo de Vaux-en-Velin est occupé depuis ce soir du 26 septembre pour mettre à l'abri une famille sans logement et exiger une solution de logement immédiate. Alors que la rentrée scolaire est un moment important pour nos enfants, élèves et pour l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, 2 élèves du collège Pierre Valdo à Vaux-en-Velin, leur petit frère scolarisé à l'école Langevin et leur mère sont sans aucune situation de logement et risquent de se retrouver à la rue dès aujourd'hui. Pour cette famille, les appels quotidiens au 115 ne donnent aucune réponse.
Nous, collectif formé de parents d'élèves, d'habitants et de membres des équipes éducatives du collège et de l'école, déplorons qu'en l'absence de notre mobilisation, les situations de ces élèves et leurs familles resteraient invisibles Alors, le Code de l'action sociale et des familles précise que toute personne en situation de détresse a accès, sans aucune condition de régularité de situation, à tout moment à un hébergement d'urgence. Notre mobilisation s'intègre maintenant dans le cadre du réseau national d'aide aux élèves sans toit, lancé le 30 août dernier par 39 associations du collectif des associations Unies et la FCPE nationale qui ont interpellé les ministères compétents pour qu'aucun enfant ne soit plus contraint de passer la nuit dehors.
Nous ne nous résoudrons jamais à ce que nos élèves, leurs frères et sœurs et leurs parents dorment à la rue, dans des voitures, dans des cages d'escalier, sous un pont, dans des tentes. Nous avons sollicité la mairie de Vaux-en-Velin et la métropole en leur demandant de mettre tout en œuvre pour faire appliquer la loi auprès des services de la préfecture et pour mettre à disposition des moyens, comme les logements de fonction vides au-dessus des écoles.
En l'absence de proposition de solution pour cette famille, nous nous voyons contraints d'occuper la salle de sport du collège Pierre Valdo pour mettre à l'abri cette famille pendant la nuit et éviter que des enfants âgés de 9 à 13 ans dorment dehors. Cette occupation ne saurait être une solution durable et satisfaisante et nous espérons que les services municipaux, métropolitains et préfectoraux proposeront rapidement une solution de logement digne et pérenne pour cette famille comme pour les 80 enfants à la rue, 37 familles en tout, sur l'ensemble de la métropole. Les élus du Grand Lyon mettent régulièrement en avant leur volonté de faire de notre métropole un territoire accueillant et solidaire et de trouver une alternative à la rue pour les personnes sans abri. Nous ne doutons donc pas qu'ils entendront notre appel à l'aide.
Donc voilà, c'était le communiqué du collectif de soutien du collège Pierre Valdo, qui est soutenu par Jamais Sans Toi et le réseau national Enfants Sans Toi. Et il y a une cagnotte de soutien en ligne qu'on mettra sur le blog de l'émission. Et sinon, c'est cotisup.com/soutien-collège-valdo.
Et on continue au local avec un sujet sur la fermeture des lits à Saint-Jean-de-Dieu.
Oui, donc à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, il y a l'annonce de nouvelles fermetures d'unités après la fermeture de l'unité Louise Labbé qui comptait 26 lits, qui a été annoncée pendant l'été. C'est l'unité Erasme qui va fermer 25 lits supplémentaires, alors même que le secteur du soin psychiatrique est saturé. Après un an et demi de plan blanc, il y a donc une poursuite de la logique de fermeture des lits d'hospitalisation temps plein, alors que l'hôpital ne peut déjà pas plus répondre aux demandes d'hospitalisation. Et donc tout ça a lieu dans le contexte d'une réduction des moyens de l'hôpital psychiatrique en particulier, mais aussi de l'hôpital en général, puisqu'il y a 4300 lits qui ont été fermés en 2021 au niveau national, sous Macron. Et la mobilisation des soignants, notamment après le Covid, n'a pas encore inversé cette tendance. Mais ils continuent à se mobiliser puisque les soignants de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu appellent à une manifestation devant l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, donc ce jeudi 6 octobre de 12h30 à 14h30, pour dire stop aux fermetures d'unités et à la maltraitance institutionnelle. Et c'est sans doute une mobilisation qui va se poursuivre aussi au niveau national avec les mobilisations du secteur social et médical qui vont se poursuivre au niveau national.
Et on enchaîne tout de suite avec un petit son qu'on a raté tout à l'heure. Donc on écoute Perkis comme jamais de Sami Amara et Maître Jacquard.
Perkis comme jamais, jamais. On casse ta porte, y'a la Gestapo. Moi et mes potes, on fait les Rambo. Les attentes, ça, on s'est fous sur le dos. On fait ce qu'on veut, on est des G.I. Joe. Et ouais, mon pote, on soulève tes fesses. Car il paraît que t'as une fiche S. Et BFM en fera des caisses. Chalkoumi en attaché stress. Oh les mains, oh les mains. On braque, on s'en bat les reins. Bat les reins, bat les reins. On braque ici, même pour rien. Qui a perdu toute sa raison. Donc t'es suspect de toute façon. On marche sur les traces de l'inquisition.
Perkis comme jamais, jamais. Perkis comme jamais, jamais. Perkis comme jamais, jamais. Perkis comme jamais, jamais. C'est l'état d'urgence. C'est l'état d'urgence. Crions vive la France. Crions vive la France.
Bonjour, police nationale, contrôle d'identité s'il vous plaît. Pas de problème monsieur l'agent, voilà mes papiers. Bon par contre si on peut faire assez vite parce que là je vais au boulot et je vais être en retard.
Ah ben il a dit à la gloire, il a dit à la gloire, nous on tire hein. Ah ouais nous on a plus le temps hein. Et puis on va voir ce qu'il y a à la maison.
On passe après minuit.
On passe après minuit.
On écourte tes nuits. Tu vis dans une nation qui a perdu toute sa raison. Donc t'es suspect de toute façon. On marche sur les. Perkis comme jamais,
jamais.
Perkis comme jamais,
jamais.
Perkis comme jamais,
jamais.
C'est l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence. Crions vive la France, crions vive la France.
Pour Paris et Marseille,
Perkis.
Pour Lille et Montauban,
Perkis.
Montpellier, Créteil,
Perkis.
Belfort, Perpignan,
Perkis.
De Nice à Saint-Malo,
Perkis.
En passant par Villiers,
Perkis.
Eh ouais mon coco,
Perkis.
Ta policier.
Perkis comme jamais,
jamais.
Perkis comme jamais,
jamais.
Perkis comme jamais,
jamais.
Perkis comme jamais,
jamais.
C'est l'état d'urgence. C'est l'état d'urgence. Crions vive la France. Crions vive la France.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'était Perquis comme jamais. Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi. Et on va tout de suite passer à un dossier.
Et oui, la semaine dernière, c'était la rentrée des luttes. Un appel à la grève nationale a réuni près de 250 000 manifestants dans toute la France ce jeudi 9 septembre. Et donc, on fait tout de suite un dossier.
C'est la rentrée des luttes.
C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête.
Bientôt la révolution. Et oui, on va éviter de parler de l'éternelle stratégie de la défaite des directions syndicales qui préfèrent des journées de mobilisation éparpillées à la grève illimitée partout. Il y a aussi des exemples de camarades qui sont toujours en lutte et qui sont en grève reconductible depuis. On pense notamment aux camarades d'Arkema qu'on avait accueillis la semaine dernière ou encore aux travailleurs de la raffinerie de Fezin qui sont toujours en grève depuis. Dans la manif lyonnaise qui a réuni près de 7000 personnes et qu'on entend derrière moi, on a retrouvé les copains de la lutte de classe et plein de secteurs prêts à affronter la rentrée sociale. On vous propose de faire un petit tour à la manif avec nous. Nous sommes le 29 septembre et les Lyonnais battent fort le pavé.
Et on commence tout de suite avec les copains cheminots qui donnent le ton, les copains copines cheminots. Et là, on écoute Agathe de la CGT cheminot. Et on peut vous dire qu'ils et elles sont bien, bien en colère.
Le domaine du transport, on est particulièrement impacté par le prix de l'énergie. On ne sait pas ce que ça va donner au niveau des effectifs. Alors les salaires, on sait déjà, on est gelé depuis 8 ans. On a eu une espèce de mesurette cet été, mais ça ne réglera pas le problème à long terme, ça c'est clair. Mais effectivement, au niveau de l'énergie, on se doute qu'ils vont nous pondre quelque chose pour encore réduire les effectifs. Ce qui est quand même dramatique, étant donné qu'on sort d'un été extrêmement compliqué, autant au niveau du fret qu'au niveau du voyageur, parce qu'on n'a déjà pas assez de personnel pour assurer les charges habituelles en temps normal, nos trains normaux. Donc cet été, ça a été un cauchemar pour beaucoup d'entre nous, sachant qu'en plus, à côté de ça, on a des salaires qui ne sont pas plus du tout alignés sur ce qui devrait être aujourd'hui. Donc on va continuer à se battre, parce qu'on n'a juste pas le choix, en fait.
Et on a ensuite croisé Manu, salarié de l'associatif, qui nous explique en quoi elles et eux aussi sont impactés par l'inflation. On l'écoute tout de suite.
On est ici parce qu'on a beau penser que l'associatif c'est un métier de passion, c'est d'abord un métier. Et bien trop souvent, on est payé à coups de lance-pierre pour faire le service après-vente des services publics défaillants. Donc aujourd'hui, on revendique de la même manière que les salariés du privé le droit à être mieux payé, tout simplement.
Un peu plus loin dans le cortège, on est tombé sur une psychologue clinicienne qui nous a parlé de la crise institutionnelle que traverse le secteur dans son ensemble.
2 ans à peu près qu'on fait des manifestations régulièrement. Le constat aujourd'hui, c'est une grande problématique institutionnelle en France, avec des institutions qui vont très mal, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de lit, qui n'ont pas de poste. Des psychologues qui travaillent sur les institutions pour peau de chagrin, avec des salaires qui sont absolument pas décents pour des gens qui ont Bac plus 5 à Bac plus 8. Au moment de la crise sanitaire, l'État s'est rendu compte que les psychologues avaient un intérêt en France, mais plutôt que de reconnaître leur travail et la qualité de leur travail, ont décidé de mettre en place un dispositif qui s'appelle Mon Psy, et contre lequel on lutte depuis son instauration, puisque ce dispositif ne va pas correspondre du tout aux besoins de la population. Il nous semble plus important de donner des moyens, des lits, du personnel pour les institutions et que les cabinets libéraux soient en complémentarité avec ce travail institutionnel, mais sûrement pas de déplacer le problème de la souffrance psychique sur tous les cabinets libéraux, c'est impossible. D'autant plus que ce dispositif, Mon Psy, est absolument irrespectueux pour les psychologues. On nous propose 30 euros par séance. Quand on dit 30 euros, ce n'est pas suffisant parce que la consultation moyenne chez un psychologue aujourd'hui en France, c'est 64 euros. Le ministre de la Santé nous répond, vous n'avez qu'à diviser les consultations par deux en temps. Et on n'est pas d'accord, bien évidemment.
Et une fois n'est pas coutume, les livreurs et livreuses en deux roues étaient de la partie. Alors ici, Thibaut et Zachary de Just Eat, au-delà des conditions de travail dégueulasses qu'ils et elles subissent, plus largement contre un vaste plan social de licenciement que la lutte a démarré.
Et je suis aujourd'hui à la manifestation du 29 septembre pour manifester, pour voir, parce que nous sommes en PSE. Je suis en cours de licenciement. On sort pour avoir notre droit.
En fait, on est là aujourd'hui dans un grève pour une augmentation de salaire aussi. C'est la merde en fait. On travaille sur le chaleur, sur la pluie, tout ça, mais on a le salaire du SMIC en fait. C'est pour la galère. Hein.
Puis on s'est entretenu avec un salarié de l'hôtellerie-restauration. Évidemment, là aussi, le combat est sur les salaires, mais aussi et surtout contre la transformation profonde du métier selon les désirs encore et toujours du MEDEF.
On est là aujourd'hui évidemment pour les salaires, mais on prépare aussi une journée du 18 octobre qui va être importante pour nous, parce qu'on est en face d'un gouvernement clairement qui a décidé de pulvériser la voie professionnelle en formation initiale pour le remplacer par de l'apprentissage qui sera aux ordres, clairement aux ordres d'organisations type MEDEF. Hein. Aujourd'hui, un employeur, ça lui coûte rien de prendre un apprenti et il essaye de nous faire croire qu'il va être bien mieux qualifié que des enseignants pour former une main-d'œuvre corvéable, sous-payée, sans diplôme. Avec un diplôme, il faut savoir qu'on a le droit à un certain salaire qui vient des conventions collectives. Donc quand les jeunes, on ne leur donne plus un CAP ou un bac pro, qu'on leur donne ce qui s'appelle des certifications de qualification professionnelle, eh ben, ce n'est pas du tout monnayable sur une grille de salaire. Donc c'est pas trop qu'on fixe le tarif, très clairement.
Un peu plus loin dans le cortège, c'est Maximilien de la CGT FAT, entendre Fédération des activités postales et de télécommunications, qui nous a répondu. Là encore, au cœur des revendications, les salaires bien sûr, mais aussi les techniques des directions pour économiser de l'argent sur le dos des travailleurs et travailleuses.
Nous, on est sur la manifestation aujourd'hui avec des préavis de grève locaux et nationaux pour porter la question de l'emploi, la question des salaires, à savoir qu'à la Poste, on est un certain nombre à avoir des salaires en dessous du SMIC actuellement, à gagner des CDI parce qu'on a un nombre d'intérimaires assez conséquent dans l'entreprise, que ce soit à Orange ou à la Poste actuellement, et également comment on pousse à ce que les entreprises maison-mère récupèrent l'activité, car il y a de plus en plus de sous-traitance avec la dégradation des conditions de travail qui sont liées et la mise en concurrence des salariés. Donc voilà, nous on appelait essentiellement autour de ces trois points aujourd'hui, et ça faisait lien aussi par rapport à un bureau d'embauche qu'on avait mené sur notre plus gros site dans le département, donc avec la présence de Philippe Martinez qui était venu pour réclamer des CDI donc à Saint-Priest, à la plateforme industrielle Courrier. Donc voilà, donc on essaye de mener une action sur la durée et on lâchera pas le morceau.
Et on continue avec un instituteur de l'école Château Gaillard à Villeurbanne, au programme défense du service public, dénonciation du manque de personnel et des conditions de travail.
Aujourd'hui, on est presque toute l'école, sauf deux collègues, à avoir fait grève. Clairement, nous, on est là pour défendre l'école en tant que service public. On est là pour mettre en avant les problématiques de personnel, le manque d'AESH. On a de nombreux élèves, nombreux élèves en situation de diagnostic autistique qui se retrouvent aujourd'hui sans accompagnement, avec toutes les répercussions que ça a sur le domaine scolaire, le domaine familial. Et globalement, on est là aussi pour soutenir l'école publique dans sa lutte contre les lois qui visent à en faire une entreprise, à faire de notre directeur un chef hiérarchique, à précariser la condition du métier d'instit, d'AESH, d'animateur périscolaire, de la cantine, de la restauration scolaire également.
Et dans le cortège, beaucoup, beaucoup de personnel de la santé qui n'en peuvent plus. Ici, une infirmière qui nous raconte les suppressions de lits, la désertion du métier, la surcharge de travail et le recours systématique à la sous-traitance. On écoute.
On dirait qu'il y a une volonté manifeste de nous détruire. Parce qu'on nous retire des lits, on nous retire du salaire de façon insidieuse. Parce qu'on nous retire du salaire comment ? Eh bien, en ne nous augmentant pas. Du coup, le coût de la vie augmente tout partout. On se retrouve à devenir en fait des travailleurs pauvres à force. Au plus le temps passe, au plus nos primes ne bougent plus, au plus nos salaires ne bougent pas et au plus le coût de la vie augmente. On se retrouve avec des gens qui sont obligés de travailler à faire des distances très longues parce qu'ils ne peuvent plus se loger sur Lyon, par exemple. j'ai déjà vu moi des agents qui dormaient dans leur voiture pour ne pas avoir à faire les trajets. Le personnel dans les hôpitaux, bah, ça se réduit à peau de chagrin. On a externalisé plein de fonctions, du style par exemple le ménage. Et quand on voit les conditions de travail de ces personnes qui travaillent pour le ménage, leur société les paye à coups de lentière. Ils ont des temps limites pour par exemple faire la chambre d'un patient, 6 minutes. Donc c'est des conditions de travail déplorables.
Toujours présents dans la rue, les travailleurs et travailleuses sociaux, sociales qui ne lâchent pas la lutte. Sud Santé Sociaux était comme d'habitude présent dans le cortège. Un militant nous explique leurs revendications aujourd'hui.
En manifestation et en grève, car on revendique des augmentations de salaire. En fait, à Sud Santé Sociaux, on a évalué qu'il manquait 400 euros net pour tous, qui est en fait l'équivalent des 20 ans de gel de notre point. Et on est aussi aujourd'hui dans la rue parce que depuis le mois d'avril, nos employeurs ont signé un accord pour permettre à certains salariés d'avoir une prime de 183 euros et certains autres l'ont pas. Et ça, à Sud, nous, on trouve ça inadmissible. Et donc aujourd'hui, c'était aussi pour marquer le coup, dire que nous, on voulait une prime pour tout le monde et que pour que notre secteur reste humain et qu'il y ait moins de souffrance, il faut aussi augmenter les salaires.
Et les salariés de la culture étaient aussi dans la rue. Christophe de la CGT Spectacle nous raconte les difficultés du secteur, notamment pour les intermittents qui subissent toujours les conséquences de la crise sanitaire, qui vont voir les droits de l'année blanche, on en a beaucoup parlé ici, se terminer brutalement. Conséquence, une véritable hécatombe annoncée.
Allez Christophe.
Allez Christophe.
C'était pas le bon, c'est pour
c'était
ça.
C'était pas le bon Christophe, mais on est reparti.
Va continuer jusqu'au 31 décembre, donc encore 3 mois. Mais il va y avoir énormément de gens qui vont sortir au 1er janvier. C'est-à-dire qu'on n'aura pas réussi à refaire les heures. Et l'année 2023, en termes d'emploi, ça va être très difficile. Parce qu'il y a une conjonction de facteurs. Il y a la crise en général, mais précisément ici, il y a le désengagement des départements. Et puis évidemment la région avec Vauquier. Les salles aussi qui ne se remplissent pas, hein, parce que les campagnes d'abonnement sont difficiles. Donc voilà, je pense que 2023 va être une année difficile. On espère que les professionnels du spectacle et de l'audiovisuel vont se mobiliser.
Et pour finir, le désormais habitué du Canu Info du lundi, Seb de la CGT Ville de Lyon, qui persiste et signe Europe Écologie Les Verts à la tête de la Ville de Lyon, sont décidément dans la droite lignée des colons, képénékians et consorts en termes de gestion des agents et agentes de la Ville de Lyon.
Les municipaux de la Ville de Lyon, on n'a jamais connu une rentrée scolaire comme ça, quoi. C'est un vrai bordel, il manque du monde de partout. C'est vraiment très difficile, alors que c'est une entrée sans protocole sanitaire ou quoi que ce soit. En fait, il n'y a plus de remplaçants, il n'y a plus rien. Le quoi qu'il en coûte n'existe plus dans la fonction publique. Et les agents, ils sont en train de crever, ils en ont vraiment ras le cul. Et là, y a les copines des crèches qui se mettent en grève le 6 octobre de mémoire. Il va y avoir un truc devant l'hôtel de ville à 10h30, mais vraiment, il y en a marre. Et puis en plus, on a une mairie écolo, bobo et tout ça qui viennent de donner 5 millions d'euros là, à l'intérim pour les crèches. Ils bossent à fond avec les boîtes privées, c'est vraiment dégueulasse ce qui se passe. Ce qui est difficile, ça va être de mutualiser toutes ces colères. Actuellement, je tourne dans les écoles, toutes les écoles, on n'en aura plus. Les ATSEM reçoivent des enfants avec des handicaps forts, mais on n'a pas les moyens de les recevoir correctement. Donc non seulement les agents se pètent la santé, mais en plus les enfants sont mal reçus. C'est incroyable de faire un service public comme ça. Et c'est pareil dans les crèches, c'est pareil de partout. On en a vraiment ras le cul et il va y avoir des actions qui vont arriver au mois d'octobre. Là, il n'y a pas de souci, quoi.
Voilà un petit florilège des colères des salariés en jeudi 29 septembre. Tout le monde en a marre. Tout le monde sait bien qu'une journée de grève ponctuelle fait doucement rigoler le gouvernement et le patronat et qu'il en faudra beaucoup plus pour des véritables augmentations de salaire, des conditions de travail et de vie décentes. C'est dans la rue et par la grève reconductible et générale et dans la confrontation que ça se passera. On continuera à vous tenir informés, bien sûr, dans les Canus Info des semaines à venir, d'où en sont ces différentes luttes.
Et voilà, c'était la rentrée des luttes.
C'est la rentrée des luttes. C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête.
anticapitaliste. Anticapitaliste.
Bientôt la révolution. Et avant la révolution, on passe tout de suite à l'agenda de la semaine qui nous conduira tout directement à la révolution.
Prémisse de la révolution.
Oui, on commence avec une soirée de soutien à la perme de santé à l'Amicale du Futur. Donc, c'est la perme de santé qui proposait le mercredi à l'espace communal de la Guillotière des permanences d'accompagnement en santé ouvertes à toutes et tous, gratuites, horizontales et sans condition d'accès. Et aujourd'hui, ils veulent imaginer des nouveaux lieux et des nouveaux moyens de faire la perme. Et ils et elles vous appellent donc à venir les soutenir demain à partir de 18h à l'Amicale du Futur.
Et si vous y allez pas toujours demain, vous pouvez aller à la projection et discussion qui se tiendra à la Maison de l'écologie. La projection, c'est le collectif Les Scoutcheuses qui projette donc son film Après les nuages, tourné sur pellicule en Super 8. La projection dure 40 minutes et sera suivie d'une discussion sur la lutte contre les nouveaux projets nucléaires dans le budget. La Maison de l'écologie, c'est 4 rue Baudin, Lyon 1er.
Et puis, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on le redit quand même, dans l'agenda de la semaine, jeudi 6 octobre de 12h30 à 14h30, il y a une manifestation devant l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui est situé 290 route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon, contre la fermeture de 25 lits de l'unité Erasme, suite à la fermeture de déjà 26 lits cet été.
Pardon. Et puis samedi 8 octobre, parce que j'ai un masque, il n'y a pas de mal. Et puis samedi 8 octobre, c'est la permanence d'accueil du syndicat de la CNT Interco 69. Donc ça, c'est tous les samedis de toute façon, dans tous les deuxièmes samedis du mois, pardon, entre 11h et 13h, au 44 rue Burdeau, Lyon 1.
Et samedi toujours à 14h, il y aura une assemblée générale féministe du Rhône qui organisera sa première réunion à la Maison des étudiants et étudiantes 90 rue de Marseille à Lyon 7e. C'est à 14h et l'objectif de cette première réunion est de se regrouper, de discuter du fonctionnement de l'AG Féministe, de ses projets à court et à long terme. L'AG Féministe est ouverte à tous et à toutes, militants et militantes ou non. Et ce sera donc samedi à 14h à la Maison des étudiants.
Et samedi toujours de 15h à 17h à la librairie La Griffe, il y a une rencontre avec Mathieu Léonard autour du livre « L'ivresse des communards ». Ça sera une présentation du livre et puis une petite projection d'illustrations, gravures, tableaux, caricatures de presse de la période 1970 à 1914. La librairie La Griffe, c'est 5 rue Sébastien Griffe.
Et samedi encore, décidément, gros programme, il y aura une soirée de soutien à la lutte contre les CRA, les centres de rétention administrative. Ça se passera au Grand Zéro, 60 avenue Bolène à Vaux-en-Velin. Et donc c'est une soirée de soutien à toutes les actions contre les CRA qui sont organisées notamment par le collectif anti-CRA. Il y aura des pizzas, des concerts et ça commence, j'ai dit, donc à 18h30.
Et pour celles qui se lèveront le lendemain, le dimanche 9 octobre à l'Illégalité, il y a un atelier « Mate ton microbiote vaginal » de l'association Agnodis qui passe à Villeurbanne et qui propose donc un atelier d'auto-examination à l'aide d'un microscope et un atelier de partage de savoir à l'aide d'un jeu de cartes. C'est de 10h à 17h et sur inscription. Plus d'infos dans un article Rebellion qui sera, je crois, publié incessamment sur peu. Et sinon, l'inscription, il faut écrire à une adresse mail un peu bizarre. C'est betterave en anglais, donc ça s'écrit betterot@riseup.net.
Et c'est donc la fin de cette émission du lundi 3 octobre.
Bah ouais.
C'est tout à fait. Et lundi prochain, c'est une émission...
Sans moi.
Voilà, c'est ça en gros.
C'est ça, très bien. Voilà.
Deuxième édition de l'émission du Canu Info du lundi en mixité choisie sans Maxis, lundi prochain.
Les cervelles de Canu. Du coup, nous, on vous dit à la semaine prochaine.
Et à dans 15 jours. Voilà.